Café Croissance, un podcast Audiolab.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Croissance, le podcast qui veut vous parler de business et de transformation de soi, rien que ça. Et aujourd'hui, on n'est pas deux, mais on est trois en fait, pour vous parler d'une razzia sur nos data et poser la question qui fâche. Donc à ma droite, j'ai Tony Germini que je salue. Salut Tony.
Salut Marco.
Et face à moi, j'ai Grégoire Barbet, l'initiateur, l'auteur, co-auteur d'une publication qui s'appelle Razzia sur nos data, d'où on tient la moitié de notre titre et que je profite de saluer sans attendre.
Bonjour Marco.
Alors moi, j'ai eu l'occasion de te connaître, Grégoire, c'était il y a quelques années, hein, puisque tu as été également le co-auteur de notre si précieuse intégrité numérique que tu as écrit avec Monsieur Roussel. Correct.
Alexis Roussel, oui, tout à fait. Ouais.
Ouais, et ça date déjà de 2021. C'est un livre que j'ai adoré et ça m'a mis l'impulsion en fait pour commander cette nouvelle publication puisqu'elle parle de data. On parle d'une publication qui date d'il y a quelques semaines, hein, qui a été lancée par Heidi.news pour lequel tu travailles. Tu travailles également comme journaliste cyber pour le journal Le Temps.
Oui, alors en l'occurrence, je travaillais chez Heidi et du coup, depuis décembre, je travaille maintenant en tant que journaliste cyber au Temps.
Ouais. Ah, ok, donc un passage d'armes pour le journal Le Temps. Je pense qu'il a fait une bonne pioche pour le coup. Et c'est avec le co-auteur justement de Razzia sur nos data que j'avais envie de poser cette question. La razzia sur nos data, mais à qui est-ce que ça profite comme crime ? Voilà, la question, on va l'aborder d'ici quelques instants. Hein, tout le monde sait que les données sont le pétrole du 21e siècle, mais tout le monde ne sait pas qu'est-ce qu'on fait de ces données personnelles et qu'est-ce qu'on en fait également en Suisse, hein, puisqu'on parle souvent des GAFAM, mais on a des géants orange, on a des géants bleus, on a des géants jaunes, et pas que des géants finalement qui font transiter ces données. On va gratter un petit peu grâce aux infos qu'on a obtenues de Razzia sur nos data, la publication. Et pour répondre à la question à qui profite le crime, j'ai voulu piocher quelques passages de choix et vous questionner. Hein, Tony d'un côté, hein, l'expert en données, et puis bah, toi Grégoire, le journaliste cyber. Ça vous va comme programme ?
Parfait.
On se réjouit.
Café Croissance.
On commence par un petit débrief, si tu veux bien, Tony, hein, parce que suite au dernier épisode, moi, j'ai eu quelques échos positifs. Je me dis que tôt ou tard, on en aura également des négatifs. Hein, mais on profite pour se taper un petit coup dans le dos après coup, hein, parce que c'est mon ancien boss, là, Lorenzo Stoll. Je lui fais un petit ja pour l'occasion. Hein, aujourd'hui, il est chez Swiss World Cargo. Il est Head of Cargo lui-même et il a bien apprécié ce qu'on a dit sur la stratégie de croissance ou la rentabilisation. Et ça lui a rappelé des souvenirs, hein, puisque c'est lui qui avait monté l'équipe de tueurs que j'avais mentionné lors du précédent épisode. Et puis, il a eu envie de faire un petit like comme ça et un commentaire. Donc, vous retrouverez ce commentaire si vous allez sur la page d'Audiolab. Et je profite pour tous ceux qui veulent nous écouter. C'est sur audiolab.ch, vous entendez tous les épisodes. Les handles de Tony, c'est Tony_Germini et Warco Brienza pour Twitter. Toi, tu es sur Twitter, Grégoire ?
Oui, bien sûr. Ouais.
Tu veux donner ton handle ou c'est confidentiel ?
Non, je crois que mon handle, c'est grégoire.barbet. Tout simplement.
Tout simple. Et puis, vous savez, hein, on aime les compliments, on aime les critiques. N'hésitez pas à en faire et à vous abonner à ce podcast. Donc ça, c'était la première info de ce débrief. La deuxième, c'est des surprises qu'on vous prépare. Pourquoi ? Parce que Grégoire est le premier invité d'une série. Hein. On est en train de contacter quelques invités de choix pour parler de nouveaux sujets, accompagnés d'une nouvelle personne. Donc, on risque bien d'être trois au prochain épisode également. Mais on vous fait la surprise et de l'invité et du sujet. Vous avez compris que quand c'est des surprises, c'est qu'en fait, on n'a pas tout à fait terminé le sujet. Mais c'est une manière élégante de le dire quand même.
Exactement, oui.
Bon, on revient à la question du jour, si vous voulez bien.
Café Croissance.
Je la pose. Razzia sur nos data, à qui profite le crime ? Vous inquiétez pas, hein, on va décortiquer tout ça. Et on a quelques cas concrets. On va même balancer des noms, hein, puisqu'ils ont été nommés dans la publication Razzia sur nos data, co-écrite par Grégoire Barbet et publiée par Heidi.news. Et j'avais envie de commencer avec un retour en arrière sur une expérience professionnelle qui m'est personnelle, mais où j'ai découvert finalement que cette razzia sur nos data, c'est pas avec les GAFAM que ça a commencé. Et ce que j'avais envie de rappeler, c'est que dans l'épisode 10 de cette enquête, nous avons une professeure assistante en informatique à l'EPFL, Madame Troncoso, Carmela Troncoso, qui a pris un exemple que j'ai adoré et qui remonte aux années 2000, au début des années 2000. Donc là, je vais vous dire, Google, ça existait, mais c'était pas le monstre tentaculaire d'aujourd'hui. Et elle cite un exemple qui m'a vraiment vraiment fait sourire et qui est vraiment du domaine du possible, qui n'est pas du tout exagéré, là je cite celui d'un supermarché américain qui effectuait des analyses d'achat à des fins de publicité ciblée. J'ai pas envie de spoiler cet exemple parce que je le trouve vraiment excellent, mais c'est l'histoire de quelqu'un qui reçoit des informations par rapport au bébé et qui en fait n'attend absolument pas de bébé. Si vous voulez lire la suite, nous on a mis en lien l'épisode 10, cliquez dessus. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que l'analyse de comportement d'achat des shoppers, consommateurs, bah ça fait belle lurette qu'elle a lieu, ça date même d'avant-guerre, hein, puisqu'une société qui est peu connue du grand public, mais qui génère des milliards, hein, je crois que c'est 6 milliards de chiffre d'affaires par année, dont 500 millions de bénéfices, hein, donc d'EBIT, elle est cotée à la bourse, elle est présente dans 49 pays avec des bureaux, bah c'est le fameux Nielsen. Je pense que tous ceux qui bossent dans le domaine du food l'ont déjà deviné, hein, donc les biens de consommation food ou non-food, Nielsen est présente sur l'ensemble des catégories de produits que vous achetez en rayon, ils sont également présents dans ce que vous achetez sur Internet. Hein, et ils sont finalement présents dans ce que vous regardez à la télévision, à la radio ou sur Internet. Les deux grands pôles d'activité, c'est d'un côté ce qui se passe en magasin et de l'autre ce qui se passe sur Internet. Et ça, ils le font depuis 1933. J'ai vérifié. Donc évidemment, c'est pas la même approche. Hein, c'est des gens qui font partie de panels, donc ils souscrivent à ce panel. Il y a aussi une grande différence, c'est qu'eux, ils ont donné, un, leur consentement et deux, ils ont une forme de rétribution pour faire partie de ces panels. Mais il n'empêche, à la fin de l'histoire, on a toutes les habitudes de consommation qui permettent en fait d'avoir le niveau de détail que toi t'avais posé, Grégoire, dans l'épisode 3, hein, quand tu mentionnes justement cette consommation de nourriture pour animal, et tu fais plein de conclusions qui sont basées sur des graphes qui sont bien explicites. Et en fait, la grande question que je me posais, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tout un foin des données personnelles ou non personnelles qui sont aspirées par les GAFAM, et pas que elles d'ailleurs, et pourquoi personne n'en a rien à cirer de ce que Nielsen fait depuis bientôt 100 ans. On commence par toi peut-être, Grégoire.
Oui, alors là, tu poses une question super intéressante. En plus, je trouve que le cas de Nielsen, il est extrêmement explicatif en fait de la différence entre ce que font aujourd'hui des acteurs comme Google, Facebook et compagnie, et Nielsen qui fait justement, comme tu disais, avec le consentement en fait des gens qui participent à ces sondages d'opinion quelque part, hein, d'habitude d'achat. Google, Facebook et compagnie, eux, ils extraient ces données de force, hein, même si on utilise gratuitement leurs services. On n'est pas au courant réellement de tout ce qu'ils font avec ces données, on n'en a même pas une mince idée. Et aujourd'hui, eux le font à une échelle beaucoup plus évoluée, beaucoup plus précise que ne le fait Nielsen, parce que justement, ils ont une analyse des comportements au plus près, puisqu'ils vont les chercher directement à la source, c'est-à-dire les consommateurs. Donc aujourd'hui, c'est ça la grande différence, et je pense que là où, pourquoi ça peut être, disons, plus problématique, c'est parce que justement ces données personnelles, elles disent beaucoup de choses de nous, et si elles tombent entre de mauvaises mains, elles peuvent servir à nous causer beaucoup de tort, et aussi sur le plan politique d'ailleurs.
Ce que je réalise, c'est qu'en donnant notre consentement, on est tout simplement conscient de ce qui se passe. Et qu'on le donne pour de vrai, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une case à cocher, c'est vraiment un processus sur lequel je crois qu'on signe un document, hein, au début du processus, et ensuite on est sollicité comme personne pour prendre part au panel.
Bah justement, Marco, puisque tu me tends la perche, moi j'en ai lu beaucoup pour cette enquête, hein, réalisée sur nos data. J'ai lu celle de Lacob, j'ai lu celle de Migros, j'ai lu celle de Swisscom, enfin je les ai toutes lues. Et ce qui ressort, c'est que ce sont des conditions qui sont générales, très générales. On ne nous explique pas tout en précision, donc le consommateur n'a jamais vraiment qu'une vague idée de ce qu'on va potentiellement faire avec ces données. Et puis, ça liste aussi des choses que l'entreprise, vraisemblablement, ne fait pas toujours. Donc, en fait, elle se protège en énumérant des choses qu'elle pourrait potentiellement faire, mais qu'elle ne fait pas forcément. Et puis, comme ça, si un jour, il y a un problème dans la façon dont les données ont été traitées, eh ben, ils peuvent se protéger d'un point de vue juridique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui pose des questions, quoi.
Si tu mentionnais il y a quelques secondes, Grégoire, une vague idée. Voilà, on a une vague idée de ce qui se passe avec ces données. Moi, tu sais, j'ai l'impression que cette vague idée, c'est aussi partagée du côté collaborateur. À un moment donné, je n'avais pas prévu de le dire, mais là, je vais quand même le dire, le point sur le porte-parole de la Migros, qui dit en fait, hein, et là, j'avais envie de citer, ce qui serait le cas si nous collectionnions des données pour les vendre à d'autres, ce que nous ne faisons pas. Voilà, donc moi, en fait, j'ai la preuve que jusqu'en 2013, en tout cas, peut-être que ça a changé ces 10 dernières années, mais je mets ma main au feu, la main gauche, que ça n'a pas changé comme pratique. Les données que Nielsen exploite, c'est quelque chose où, en fait, ils reçoivent des informations de la part de Migros et Coop et qui sont monétisées. Et le sentiment que j'avais, c'est que de bonne foi, le porte-parole de la Migros a dit non, non, nous, on ne vend aucune donnée. Alors, probablement, s'il reformulait en disant on ne vend aucune donnée personnelle, il serait plus dans le vrai, mais les données font partie du business de la Migros, faisaient partie du business de Le Shop avant qu'il soit renommé. Et ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'on en fait encore mystère, quoi.
Bon, y a toute une... c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça montre aussi que Déjà, les porte-paroles ne sont pas toujours au courant sur le plan technique, hein, donc on ne peut pas lui en vouloir. Éventuellement, c'est lui, de bonne foi, il croit ce qu'il dit. Mais il y a aussi cette idée que si Migros vend des données anonymisées sur les habitudes d'achat, il y a toujours aussi cette question. Pour moi, ça reste des données personnelles parce que le niveau d'anonymisation n'est pas toujours suffisant pour qu'on ne puisse pas désanonymiser ces données et remonter en fait à la source. Donc ça, c'est déjà un élément fondamental qu'on traite finalement assez peu. On dit c'est anonymisé, donc tout est OK. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, en l'occurrence, dans le cas de Migros, je pense que la façon dont ils gèrent les données aujourd'hui, je pense que de bonne foi, en fait, ils s'imaginent que c'est OK et que ça pose pas de questions parce que les données sont traitées selon des processus très compliqués, ils respectent des lois, etc. Et de bonne foi, ils pensent que c'est OK. Mais nous, en tant que consommateurs, on a aussi le droit de comprendre ce qu'il y a derrière, de comprendre ce qu'il est possible de faire avec des données qui pourraient potentiellement tomber entre de mauvaises mains aussi. Je pense que c'est hyper important. Et là-dessus, il y a peut-être de la part de ces entreprises un manque de compréhension de ce besoin de connaissance sur l'usage qui est fait de nos données.
Moi, j'avais la question pour Tony, hein, parce qu'on parle d'anonymisation. Et toi, Dieu sait que dans boutique, hein, des anonymisations ou plutôt des pseudonymisations. Mm-hmm. Et en fait, la réalité, c'est que je crois que quand on parle de données anonymisées, elles sont souvent pseudonymisées et non anonymisées. Et moi, ce que j'aimerais, Tony, c'est est-ce que tu arrives, en parole simple, à nous expliquer la différence entre anonymisation et pseudonymisation?
Oui. Après, je serais imprécis. Enfin, je remarque dans tes propos, Grégoire, que tu essaies un petit peu de nuancer. Hein. Peut-être que pas tout le monde dans ces organisations est conscient de ce qu'ils communiquent, de ce qu'ils font réellement et de ce qui se trouve dans les conditions. Parce qu'il y a souvent des... Dans les conditions, ils jouent beaucoup avec les termes. Hein. Je vois souvent, ils ne citent pas régulièrement les données personnelles. Donc, entre guillemets, ils ne s'engagent pas forcément beaucoup. Des fois, il y a justement des mélanges entre les données pseudonymisées et les données anonymisées. Pseudonymisées, c'est simplement qu'au lieu, d'avoir le nom Grégoire, Marco et Tony, il y a 1, 2 et 3. Donc, la personne qui sait que 1 correspond à Grégoire et 2 à Tony et 3 à Marco arrive à recouper les informations.
Est-ce qu'on peut vraiment anonymiser alors ?
Mais vraiment anonymiser, il faut enlever énormément d'informations.
Très compliqué.
C'est complètement, je veux dire, on peut même plus revenir. Il faut juste savoir, OK, c'est un client qui a fait un achat, mais du coup, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas son sexe, on ne sait pas son âge. On ne doit plus savoir rien du tout. C'est juste un acte d'achat fait par un robot, à la limite. C'est ça, la vraie anonymisation.
Je te donne un super exemple, parce que la COP, ils sont chez Google pour tout ce qui est BY, donc tout ce qui est analyse des données. Et dans les conditions générales, ils expliquent bien que les données transmises à Google sont anonymisées, mais Google peut les associer au bon profil. Donc en fait, elles ne sont pas anonymisées, elles ont un pseudonyme, un numéro, et Google est capable de dire, ce numéro 2 va avec ce numéro 2 chez nous, et puis il fait le lien entre les données, et puis il les améliore, et puis il peut redonner quelque chose de plus pertinent en termes de propositions, de produits, etc. Donc en fait, il y a une mécompréhension fondamentale dans la manière dont ces données sont anonymisées. Et aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie des processus d'anonymisation ne sont probablement faits de bonne foi, mais ne sont même pas résilients aussi par rapport aux technologies qui arrivent sur le marché et qui permettent d'analyser et de découvrir des schémas dans les données qui permettent très facilement de créer des liens en fait, entre les personnes et de les profiler. En fait.
Parlons peut-être des garde-fous à présent, hein, parce qu'on a remarqué, si on fait un choc de titans entre COP et Migros, qu'il y avait en termes de gouvernance des différences. En tout cas, à l'heure actuelle, moi j'ai l'impression qu'on est en train de shifter vers le modèle qui est suivi par COP, mais c'est une impression personnelle. Pour la faire courte, chez COP, on a monté une division Digital and Customer. C'est quelque chose que j'ai vu dans d'autres grands groupes en Suisse. L'idée, c'est qu'effectivement, au sein de la direction, on est une entité, c'est en général un comité. Un comité, c'est pas de cadre, c'est vraiment un comité de directeurs qui a les coudées franches, en fait, pour prendre des décisions, soit en termes d'investissement, soit en termes d'usufruit, d'utilisation de cet investissement. Et à contrario, chez Migros, en tout cas, c'est encore le cas aujourd'hui, on a un trade-off, un compromis, en fait, entre trois départements. Le premier, c'est l'IT, le deuxième, c'est le juridique, et le troisième, je l'oublie maintenant, il faut que je regarde mes notes.
Oui, le service client.
C'est service client.
Service client, marketing et service juridique, c'est ça ?
Et puis l'IT.
Et puis l'IT, voilà. Ouais. Marketing, service juridique, et puis IT. Alors, autant je peux m'imaginer le temps que ça prend hein, de mettre ces trois départements d'accord, autant j'ai le sentiment que chacun ayant aussi des intérêts qui sont propres, hein, en sachant qu'ils ont également des points en commun, c'est clair que ça prend plus de temps, mais il y a peut-être un garde-fou qui fonctionne mieux. Et moi, ce que je me demandais, c'est quand vous voyez une manière de s'organiser versus l'autre, il me semble qu'il y en a une qui préserve naturellement davantage l'utilisation des données personnelles. C'est aussi votre sentiment ?
C'est franchement très difficile de répondre à cette question par l'affirmative. Je pense que ça peut créer des frictions qui peuvent ralentir certains projets plutôt, mais je pense qu'il y a une tendance naturelle, et on le voit dans toutes les entreprises, mais dans les médias aussi, hein, on n'est pas exempt dans ce domaine, il y a une tendance naturelle à mutualiser toutes ces questions et à aller vers davantage d'analyse de données. Donc je ne pense pas que ça protège absolument les données, en fait. Je pense juste que c'est une autre manière de bosser, et je pense que Migros, avec son énorme projet de transformation qui est le plus grand de leur histoire, va changer ça aussi.
Projet Eiger.
Oui, exactement, le projet Eiger.
Bah, le but, quand même, c'est d'aller plus vite. Hein. Parce que là, maintenant, le temps va vite sur le monde des GAFA. Donc, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des structures qui prennent du temps à se mettre d'accord. Ils décident. Là, l'objectif, c'est d'aller vite.
C'est qu'une question de temps avant que Migros soit finalement organisé comme la COP ou comme d'autres.
Bah, la plupart des entreprises, c'est ça, ce qui se passe. Hein.
C'est ça. L'objectif, c'est l'efficience, le gain, l'augmentation des marges. Enfin, il faut aller vite, il ne faut pas perdre de temps.
Bon, je vais vous dire un autre truc qui m'a fait tomber de ma chaise. Et moi, je tiens à dire, je suis un fils de la Migros. Hein. Donc, les résidents suisses, ils choisissent ou COP ou Migros. Ben, moi, j'ai choisi Migros il y a bien longtemps. J'ai lu un truc dans Razia sur nos data que Migros va abandonner son environnement informatique sur site, on-premise. Je ne savais pas, en fait, qu'ils avaient donc le stockage de données qui était dans 4 centres de données qui leur appartenaient, répartis en Suisse. Je parle au passé. Je ne suis pas sûr que ce soit encore quelque chose qui leur appartienne ou s'ils ont déjà shifté. Ce que j'ai noté, c'est qu'en 2021, il y avait une interview de Rainer Baumann, qui est le chef du département opération à la Fédération des coopératives Migros. Vous savez que Migros, bah, c'est splitté, ce fureur, une petite dizaine de coopératives. Il n'y en a pas une par canton, mais qu'à la fin, il y a une fédération capo di tutti qui décide finalement ce qu'il est possible de mutualiser entre ces différentes coopératives. Ouvrez les guillemets dans ce qui va suivre, de ce qu'aurait dit Rainer Baumann. Nous avons compris que ce modèle n'était pas la bonne solution à long terme. Donc certainement qu'il y a une forme de ralentissement ou de coût, en sachant que ce n'est pas forcément dans les métiers de base de Migros de savoir stocker des données, et ce, de manière sécurisée. Mais quand j'entends que ça n'est pas la bonne manière de faire, alors qu'à mon avis, c'est une priorité absolue de préserver les données des consommateurs shoppers, là, ce que je me demande, c'est genre, c'est qui n'a pas compris que ce n'était pas la bonne manière de faire? Est-ce que c'est le citoyen qui n'aime pas qu'on fouine dans ses données, ou est-ce que c'est le dirigeant qui a besoin de contribuer à la marge? Mince, la réponse est peut-être dans la question.
Bon, ça, c'était tout un grand débat. Hein. Ça fait peut-être 10 ou 15 ans qu'on a pris du retard au niveau même suisse ou européen sur cette maintien de la compétence et de la souveraineté sur nos territoires. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Amazon est leader des data centers. Donc, c'est juste une suite logique et commerciale, technologique. En Suisse et peut-être même en Europe, hein, on n'a pas les moyens, les capacités de voir des data centers qui ont cette capacité comme il y a chez Microsoft, Azure ou bien Amazon. Donc c'est une tendance qui va s'accélérer, à moins qu'il y a des initiatives en Europe d'avoir un cloud souverain. Mais il faut des compétences. Même Swisscom se repose sur d'autres clouds, pour ne pas les nommer. Donc c'est une suite logique.
Mais avant les compétences, il ne faudrait pas une volonté politique ?
Alors ça, c'est tout le débat. En fait, déjà, juste pour revenir à ce que tu dis par rapport à Migros, donc Migros, ils migrent chez Azure. Je crois que c'est encore en cours. Je ne suis pas sûr qu'ils aient terminé. Mais donc, Azure, c'est Microsoft. La COP, c'est Google. Ils ont fait des choix forts. Hein, c'est des prestataires américains. Mais la question d'avoir ces données sur site, en fait, aujourd'hui, elle est dépassée. La plupart des entreprises font le shift vers le cloud. La question, c'est que le cloud, il ne faut pas oublier que c'est un ordinateur, mais c'est un autre ordinateur. Ce n'est pas celui qu'on possède. Donc, on fait confiance à un tiers pour préserver ces données et puis pourra y accéder en tout temps. C'est aussi la promesse du cloud, c'est d'avoir un accès à distance, en permanence à ces données. Aujourd'hui, c'est nécessaire, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous présente. Mais il y a aussi un risque, évidemment, à garder ces données sur site, c'est qu'il faut gérer soi-même la sécurité. Et quand on a des géants américains qui viennent et qui nous disent « Vous pouvez conserver vos données chez vous, hein, mais si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Nous, on ne peut pas vous le garantir, la sécurité absolue. Par contre, si vous venez chez nous, alors là, vous avez toutes les garanties du monde. » Quand on est directeur IT, on est très content de pouvoir faire ça, parce qu'on se sépare d'un gros problème, d'un gros risque. Et puis, on le voit aussi, la Confédération, elle fait pareil. Donc, la volonté politique, elle est compliquée, parce qu'aujourd'hui, ces acteurs-là, ils ont déjà la maîtrise, en fait, de la technologie. Ils sont en avance. Et nous, comme on a décidé de ne pas investir à l'époque, eh ben, pour rattraper ce retard, c'est coton. Donc, le cloud souverain, moi, j'aimerais beaucoup y croire, mais j'ai l'impression qu'on est un peu en train de dessiner sur les nuages, quoi.
En gros, c'est cuit, quoi. Enfin, non, mais je vous rejoins. Hein.
Ça va être compliqué. Et puis, tant qu'il n'y a pas un sursaut politique réel, en fait, qu'on arrête un petit peu cet entre-deux où d'un côté on essaie de ménager la chèvre et le chou, et puis qu'on ait un discours un peu plus clair, un peu plus fort. Les Américains, ils se gênent pas sur les puces, par exemple, en matière de production de puces pour l'IA et tout, bah, ils mettent de l'argent public dedans. Et nous, on est là, puis on dit non, mais il faut respecter les accords de l'Organisation mondiale du commerce, il faut faire les choses dans les règles et tout, mais eux, ils se gênent pas, en fait. Donc pourquoi nous, on est toujours à vouloir faire mieux que les autres alors que les autres ne respectent pas les mêmes accords que nous? Ça pose des questions, vraiment.
Changeons de disque, ou plutôt ajoutons une couche aux données personnelles, parce que là, on va carrément parler de données sensibles, hein, et on va passer à la partie santé. Hein. Il y a beaucoup de données, il faut être encore plus attentif à ces données-là qu'aux données personnelles. Il y a eu des mouvements hein, en direction de la santé, alors de géant orange, de géant jaune, je vais rester sur la Migros, et je vais ajouter la Poste à ce débat. Hein. Pourquoi ? Parce que l'intérêt pour ces données de santé, il est avéré hein, chez la Migros, qui a investi, même passablement investi, dans différentes entreprises. Ça peut être des centres de fitness, ça peut être des cabinets de médecins, plus récemment des cabinets de dentistes, donc c'est dire si c'est de plus en plus détaillé.
Et des pharmacies.
Merci de le préciser. Vous avez déjà vu ces logos MedBase hein, autour de certaines gares, et ben ça c'est à la Migros. Et puis finalement du côté de la Poste, il y a eu le rachat de Axana, que je trouve un peu plus visible en Suisse alémanique qu'en Suisse romande actuellement. Et c'est vrai que cet investissement ou ces investissements dans le domaine de la santé, ils peuvent surprendre. Pourquoi ? Parce que finalement la Poste ou la Migros n'ont strictement rien à voir hein, dans leur métier de base. Il y a beaucoup de logistique, que ce soit chez le géant orange que chez le géant jaune. Mais c'est vrai que le lien avec la santé, on a encore un petit peu de la peine à le faire. Et puis quand je prends un autre point de vue, à savoir que la santé est tenue, tu pourras vraisemblablement me le confirmer, pas tout le monde, pas toutes les organisations font de l'argent dans le domaine de la santé. Je mets de côté les pharma, parce que c'est vrai que ça marche plutôt bien du côté pharma, mais dans le domaine de la santé, on parle souvent plus de coûts que de marge. Si ce n'est pas pour la marge, alors quelle est la raison qui ferait que des groupes de cette taille-là s'investissent et investissent dans le domaine des données de santé? Je peine à croire qu'il y ait autre chose que finalement l'analyse de ces données et peut-être par extension le croisement de ces données. Est-ce que vous voyez autre chose?
Bon, déjà, MedBase, la Migros, c'est le plus gros employeur de Suisse hein, en termes de médecine ambulatoire. Donc, ça représente, je ne sais pas combien de médecins, je n'ai plus les chiffres, hein, 1500, enfin un nombre hallucinant. Donc, ils ont une maîtrise et une situation sur tout le territoire, toute langue et région linguistique mélangée. Imaginez, ce n'est pas que de la médecine, c'est de la santé. La santé, c'est en lien avec la nutrition. Ils ont aussi des centres de fitness. On disait avant aussi des pharmacies. Donc ça commence à devenir comme un grand géant tentaculaire comme les États-Unis, Walmart, qui a aussi exactement le même fonctionnement. Il y a même des assurances. Hein. Donc en fait, ils ont la vue complète sur le citoyen autour de la santé, mais autour de son comportement, même de ses voyages. On peut même extrapoler à ce niveau-là.
Si je peux dire sur le plan de Migros, en fait, c'est hyper intéressant parce que je me suis beaucoup intéressé à cette dimension de la santé. Ils ont aussi une application dont je ne sais plus le nom. Là, tout de suite, j'ai un blanc.
On le remet dans les notes d'émission.
Mais cette application, c'est une application, en fait, vous pouvez vous créer un profil. Vous pouvez ne vous connecter qu'avec un login Migros. Et puis, elle vous propose, vous pouvez choisir, par exemple, des activités pour maigrir ou pour prendre du muscle, etc. Et puis, ce qu'elle a de sympa pour les gens qui l'utilisent, c'est qu'elle peut même vous proposer des recettes. Et évidemment, les recettes, elle vous suggère aussi des ingrédients que vous pouvez acheter chez Migros. Donc là, on comprend très bien l'intérêt. Il est logique, il n'est pas choquant en soi, hein, Migros a tout intérêt à faire ça, mais étant donné, Migros dit bien qu'ils séparent, hein, pour eux la santé c'est vraiment important, les données ne sont pas agrégées dans d'autres secteurs de Migros, ça c'est ce qu'ils disent. Maintenant il y a quand même cette question qui se pose, mais pourquoi du coup il faut forcément le login Migros pour utiliser cette application? Voilà, ça j'ai pas eu de réponse, mais il y a un intérêt clairement, les données de santé. Pour l'instant la réglementation ne permet pas normalement de croiser ces données, c'est extrêmement très sérieux sur ces questions-là, il faut faire très attention, mais peut-être que demain la réglementation peut changer, pour l'instant elle est stricte, mais qui dit que demain elle ne peut pas être un peu dérégulée, et ces données-là elles seront stockées quelque part, donc à un moment donné si des possibilités de croisement s'opèrent, elles seront réalisées, donc il ne faut pas non plus être naïf, pour l'instant on vit dans un cadre réglementaire qui est plutôt favorable, même si ça n'est pas assez à mes yeux, pour protéger les données de santé, mais demain ça peut changer, et on peut imaginer très bien que si vous achetez souvent du chocolat à la Migros, et puis qu'on voit qu'à côté de ça vous êtes en surpoids, et puis que vous avez des maladies cardiovasculaires, et puis que Migros s'achète une nouvelle assurance, et puis qu'à un moment donné on a décidé de mettre des malus aux gens qui ne font pas suffisamment de sport, peut-être qu'elle pourra relayer tout ça ensemble, et puis avoir un effet sur ses marges avec ça. Donc pour l'instant on est dans la dystopie, mais ça peut arriver demain, donc il faut être conscient quand même de ces enjeux. Et il ne faut pas imaginer que c'est parce qu'on parle du pire qu'il ne peut pas arriver, quoi.
Puis un exemple qui est pas arrivé, qui arrivera pas demain, qui est déjà arrivé hier, et on va rester dans le domaine de la santé pour parler du dossier électronique du patient. Alors moi, j'ai fait mes classes, hein, j'ai voulu être un bon exemple et utiliser SwissSign, qui est une application qui fait partie de l'écosystème La Poste. Ça permet en fait de pouvoir signer, voilà, numériquement et d'avoir un document validé par sa signature et qui est authentifié. Hein. On arrive à ramener cette signature numérique à ma personne. Je trouve qu'elle est plutôt bien foutue, l'application SwissSign en termes de UX, mais c'est vrai que j'ai découvert qu'il y a une section DEP pour dossier électronique du patient et je vous avoue que j'avais pris déjà un premier contact au CHUV dans l'idée en fait de me faire conseiller sur le DEP local et assez vite en fait j'ai vu qu'on pouvait tout automatiser au niveau de la procédure. Ensuite j'ai déchanté parce que c'est dans le canton de Fribourg qu'on pouvait en fait vraiment faire clic 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 et avoir une validation de ce DEP. C'est vrai qu'en faisant clic 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 on a de la peine à croire qu'elles sont aussi bien protégé, puisque finalement, il n'y a personne qui nous le garantit. On est juste face à cette app qui est gratuite, qui plus est. Parallèlement à ça, parce que du coup, je me dis, mince, qu'est-ce que je fais maintenant entre le CHUV, la Poste? Donc, j'ai commencé à me renseigner. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait une VoID. Hein, donc, il y a VoSanté ID, hein, si je suis... Non, VoID Santé, pardon. C'est un peu compliqué. Et ensuite, il y a même une Genève ID, qui n'est pas une Geneva ID. J'ai trouvé intéressant qu'il garde l'accent. Et puis, du coup, j'étais un peu perdu entre cette identité numérique que tout le monde appelle de ses voeux, le fait qu'il y ait déjà deux cantons qui aient pris une initiative. J'ai compris qu'il y a d'autres cantons qui n'ont pas encore pris cette initiative, mais qui sont en train de. Et ce que je me suis demandé, c'était qu'est-ce qui était le plus juste entre avoir une identité numérique au niveau national, d'en avoir une peut-être à un niveau plus local. Je me suis demandé si finalement toutes ces possibilités, ça n'allait pas semer la confusion dans l'esprit des internautes et puis des citoyens suisses.
Bon, déjà, Marco, s'il faut choisir entre toutes les ID dont tu as parlé, il faut juste choisir ID News. Je pense que c'est le mieux. au-delà de la petite blague.
Ça, c'est bien dit.
C'était la motion promotion.
Pas mal.
Mais non, en fait, les citoyens sont perdus. Et d'ailleurs, on le voit, le DEP ne prend pas. Les gens ne l'ouvrent pas, ne s'y intéressent pas. Et on met de l'argent public encore et encore dedans parce qu'on espère qu'un jour, on va réussir à sauver le bah, y a une mort clinique, hein, je pense, du DEP pour l'instant. Il y a énormément de prestataires. Il y a La Poste, il y a Swisscom. Swisscom se retire. Et puis ensuite, il y a d'autres prestataires qui arrivent. Enfin, c'est compliqué. Et puis, il y a ce fédéralisme qui ne facilite pas parce qu'à Genève, c'est comme si. Dans le canton de Vaud, c'est comme ça. Donc là, c'est compliqué. Mais c'est aussi parce qu'il y a et ça, je pense que c'est plutôt sain, mais il y a une volonté de faire attention à ces données. Donc, de ne pas précipiter une centralisation absolue, éviter que tous les acteurs soient réunis dans un même lieu. Alors oui, ça crée des frictions, oui, ça ralentit les choses, mais en même temps...
Ça préserve.
Donc, le mieux est l'ennemi du bien, et c'est pas parce que demain, on peut tout faire en un clic que c'est mieux. Donc... C'est difficile d'être tranché sur la question parce que la numérisation de la santé, c'est un élément important. Je pense qu'elle peut apporter beaucoup de bénéfices aussi. Hein. Moi, je suis pas là pour dire que la technologie, c'est mal. Au contraire, j'utilise tous les jours. Mais il faut être conscient des enjeux et des risques que ça peut faire porter aux gens si c'est mal fait. Voilà.
Vous savez, j'avais envie, pour boucler ce sujet, de terminer par un bon élève. Vous allez me dire s'il est si bon que ça. Je pense au CFF, hein, donc la compagnie ferroviaire de Suisse, les chemins de fer fédéraux, hein, CFF. Et c'est vrai que j'étais... étonné, après tous ces chapitres où on lit « Mon Dieu, on se fait mettre à poil hein, au niveau de ces données personnelles, les fameuses traces », mais de lire en fait bout à bout la publication, je ne dis pas qu'on a peur, pas du tout, mais c'est comme si on fait des liens qu'on ne fait pas autrement quand on lit une news rapide sur ces données personnelles. Eh bien, ce bon élève, pourquoi ? Parce qu'on dirait que les CFF font le minimum en termes d'utilisation des données. Typiquement, là, si je relis un petit peu de mes notes, c'est peu de données utilisées à des fins publicitaires. Il y a la collecte qui se limite au strict minimum. Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que c'est effectivement un cas d'école qui fait figure d'exception ? Est-ce qu'il y aurait d'autres exceptions ? Et puis, j'avais envie de faire le lien avec la fin des cookies qui était annoncée par Google hein, pour la fin de cette année. Je crois qu'ils l'ont décalé, mais que maintenant, ils disent non, ça va être fin 2024. Je me demande si, finalement, ces initiatives, soit des bons élèves, soit des tout gros qui font un pas en arrière, ça va permettre de normaliser l'utilisation des données ou finalement de faire un pas en arrière. J'ai l'impression d'être un peu naïf avec cette question, mais j'entends volontiers vos réponses.
Bon, je pense que les CFF, déjà, ils ne l'ont pas fait de manière volontaire, hein, cette gestion un peu plus saine des données, parce qu'on leur a tapé sur les doigts à plusieurs reprises. Andreas Meyer, je crois l'ancien directeur général des CFF, estimait que que c'était injuste parce que eux étaient trop contraints à ne pas utiliser de données et tout. Il aurait aimé faire plus d'utilisation de données, il n'a pas pu. Aujourd'hui, les CFF, ils ont eu pas mal de scandales qui les ont fait un peu rebrousser, enfin faire machine arrière, on peut dire, sur les données. Donc aujourd'hui, ils sont un peu embêtés. Mais c'est pas de gaieté de cœur. Et puis, même s'ils essaient de faire les choses plutôt bien, eh ben, ils ont quand même sur leur site, par exemple, des adserves de Google, dans lesquels ils publient donc, de la publicité automatisée. Et ça passe donc par des serveurs de Google. Et donc, les gens qui passent sur le site des CFF passent par les serveurs de Google. Et donc, en fait, ce qu'on constate, et c'est ce que je constate dans l'enquête, c'est qu'au final, toutes ces entreprises en Suisse qui, pour leur propre intérêt, captent les données des consommateurs, font le jeu des géants américains en fait, parce que non seulement ils ont besoin d'eux parce qu'ils n'ont pas les technologies, ils dépendent d'eux, mais en plus de ça ils leur servent finalement ces données granulaires que ces géants là n'auraient pas autrement, et donc quelque part en fait ils font partie d'un maillon de la chaîne qui est beaucoup plus important et qui dépasse leurs propres intérêts. Et tu disais au début de l'interview, enfin du podcast, que le pétrole, enfin les données sont le pétrole du 21e siècle. Moi, je m'inscris en faux contre cette idée. En tout cas, les données personnelles ne doivent pas être le pétrole du 21e siècle, parce que c'est pas une ressource, une commodité. C'est un élément de notre personne, de notre intégrité numérique en l'occurrence. Et si on la laisse exploiter n'importe comment, juste parce que la question se limite à oui, mais on n'a rien à cacher, en fait, on va donner du pouvoir aux autres, parce que quelque part, les données c'est aussi de l'information, et l'information c'est le pouvoir aujourd'hui. Et donc quand on a une relation de pouvoir avec des entreprises qui ont une asymétrie de l'information et qui en savent beaucoup plus sur nous que nous-mêmes en savons sur nous, la relation économique peut être que défavorable aux consommateurs.
Moi je dirais même que j'utiliserais le présent directement. On est déjà en train d'être contrôlé, piloté, et on a déjà donné le pouvoir. Enfin, je ne dis pas que c'est peine perdue, on peut essayer de récupérer, mais on est déjà au stade de l'avoir donné. Et puis, je te rejoins, les CFF, enfin, tu dis que, enfin, oui, ils ont été contraints. Donc, c'est juste le premier qui s'est fait taper sur les doigts. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre à leur place. Hein.
Est-ce que donner ces données, reprendre ces volets, le futur nous le dira, hein. Voyons comment évoluent toutes ces questions en lien avec la numérisation et avec l'identité numérique. Un truc à ajouter, Grégoire ?
Oui, oui, cette phrase « donner ses données, reprendre ses volets », c'était le titre d'une chronique du conseiller national Philippe Nantermo, dans lequel il expliquait justement qu'il ne fallait pas déconner, mais qu'une fois que les données personnelles, ce n'est pas grave si on les utilise. Je résume un peu, hein. Peut-être que lui ne serait pas content d'entendre ça, mais en gros, c'était un peu son propos. C'était un peu son propos, oui, il est très fort pour ça.
Ouais. Non, mais je rêverais un jour que, on ait nos données qui soient liées comme avec un droit d'auteur dans la musique, qui sont complètement liées avec un smart contract par exemple. Puis en fait, chacun individuellement peut maîtriser ses données via quelque chose de complètement unique, et puis décider après tout seul si on veut effectivement les monétiser. Puis rentrer dans ce panel Nielsen 3.0 où les gens volontairement le font, mais elles sont aussi rémunérées et puis elles peuvent contrôler comment leurs données sont exploitées parce qu'elles sont reliées par un identifiant unique. Mais ça, c'est un rêve.
C'est les promesses du Web3, mais je crois qu'il manque un petit peu de maturité encore ce Web3, même si j'aime beaucoup les promesses qu'il fait et que certaines commencent à être tenues. À mon avis, ce sera l'objet d'un prochain épisode parce que là, on arrive gentiment au bout. Mm-hmm. Et ce qu'il faut, c'est respirer un bon coup et partager quelques inspirations. T'es prêt, Tony ?
C'est comme ça.
Café. Croissance.
Et on commence par un livre dont on a pas mal parlé, je crois.
On a beaucoup parlé, moi j'ai eu beaucoup de plaisir. Bon, moi je me suis concentré sur la partie digitale, hein, peut-être parce que je suis souvent là-dessus. Donc Razia sur le Dota, c'est aussi une publication, hein, donc comme je dis, on peut le lire gratuitement en ligne, hein, sur le site de ID.news, donc ID.news, le ID, notre charmante ID suisse, ou simplement commander en ligne et puis pouvoir le lire chez toi. Donc c'est un petit opuscule qui s'appelle Exploration, qui vient d'être publié, donc justement. Et en plus, je viens de découvrir, c'est cool ça. Donc si en plus vous voulez bénéficier d'autres réductions, il y a un code qu'on va aussi vous communiquer par la suite qui s'appelle Croissance Data. Et avec ce code-là, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 15% sur la publication en question, mais aussi sur toute autre revue de ANU.news. Ça, ouais. C'est cool, merci.
Donc, je récapitule, vous allez sur ID.news, vous cliquez sur le lien visible sur audiolab.ch, hein, les fameuses notes d'émission, vous regardez la publication qui vous plaît le plus, ça peut être Razia sur nos datas, ou n'importe quelle publication visible une fois que vous aurez cliqué le lien, et vous tapez, ou vous copiez-collez Croissance Data, on l'a mis en lettres capitales sur nos notes, et bam, vous aurez 15% de réduction. Elle est pas belle la vie ? satiné. Moi, je vais vous parler d'un autre podcast. Alors, celui-là, il est en anglais, mais je sais que beaucoup de gens sont intéressés sur l'actualité d'OpenAI. Et là, c'est Sam Altman qui l'ouvre, hein, et qui l'ouvre franco, hein, dans le podcast de Lex Fridman, l'épisode 419. Et il fait beaucoup de promesses sur ChatGPT-5. Et selon lui, en fait, on va arriver à une intelligence artificielle générale avant 2030, quoi. Donc, beaucoup d'ambition de son côté. Et puis, moi, je vous invite, avec le lien qui a été posé, bah, simplement à l'écouter ou à le lire, hein. Finalement, quand on le lit, ça se passe également très bien avec ces transcripts qui viennent de l'IA. Non, enfin, avec ces résumés, pardon, pas un transcript qui vient de l'IA. Très, très bien foutu. Et donc, le lien se trouve dans les notes d'émission. Une autre petite inspiration, cette fois en présentiel, hein, pour ceux qui seraient autour de Genève. Alors ça, c'est peut-être un truc qui va t'intéresser, Grégoire, parce que c'est Ishan Sou qui est au MAMCO de Genève, et ce, jusqu'au 9 juin. Donc le MAMCO, c'est le Musée d'art moderne et contemporain. Et pourquoi est-ce que cet artiste américain a retenu mon attention? Bah, parce que ça fait depuis les années 80 qu'il fait des hybridations, hein, entre ce qui se passe au niveau numérique et ce qui se passe dans la vie réelle. Alors clairement, si vous allez voir cette rétrospective, c'est la première qui est réalisée, et ça fait 40 ans, en fait, qui fait de l'art. Il était particulièrement actif avant les années 2000 et jusqu'au début des années 2000, mais il a remis un petit peu du cœur à l'ouvrage depuis. Et c'est vrai que là, on a une suite de pièces qui permettent de voir que le matériel était quand même beaucoup plus présent dans les années 80, dans les années 90, jusque dans les années 2000. Et ensuite, on passe au logiciel. Et c'est vrai que de voir cette transition, bah moi je me réjouis de le faire, je ne l'ai pas encore fait de mes propres yeux, mais c'est quelque chose que je pourrais faire à Genève, au MAMCO, jusqu'au 9 juin. C'est le genre de truc que vous aimez, messieurs, ou bien pas trop là?
Ouais, moi ça me tente bien, en tout cas tu l'as bien vendu, ça me donne envie. Hein.
Ah, tu fais plaisir.
Je ne connaissais absolument pas, mais ça m'a intrigué, Marco, ouais. En tout cas... T'es peut-être sponsorisé ou bien...
Pas du tout.
Dans le marketing.
Ah ouais, je suis dans le marketing. Ouais. Ah ouais, je suis dans le marketing. Mais bon, il y en a un autre que vous connaissez. Et puis ça, c'est la citation qu'on laisse à Tony. Tu veux nous la lire, Tony?
C'est une lourde tâche, parce qu'avoir une citation d'un des plus grands politiciens du siècle passé, pour certains, vous avez peut-être déjà deviné, enfin, chacun a ses opinions. Winston Churchill, il disait « Tant que vous n'avez pas accepté l'échec, vous n'êtes pas vaincu ». C'est pas beau, ça?
Ouais, bah si je le mets en perspective du sujet, hein, qu'on a abordé aujourd'hui, tu sais, moi, ça me fait aussi penser au pas capona valaisan, c'est-à-dire que tant qu'on lâche pas l'affaire, en fait, on n'a pas perdu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me correspond bien. Il faut faire attention, parce qu'à un moment, il faut aussi accepter la réalité. Mais cette réalité, j'aime bien la bloquer quand elle ne me convient pas, et puis lutter un peu, c'est tellement humain, la lutte, hein, même si, en termes d'évolution, franchement, j'espère que je lutterai quand même moins, plus je vieillis, et puis plus je mûris, du moins, j'espère. Je ne veux pas accepter ce qui ne me convient pas, et puis c'est vrai que accepter l'échec, eh ben, c'est quelque chose qui le rend réel. Et donc, il y a un moment où il faut se battre, et il y a un moment où il faut accepter. Mais bon, sans avoir essayé d'abord de gagner, je trouve que c'est un petit peu dommage. Je sais pas vous, les gars.
En tout cas, je pense que la Confédération, elle suit bien ce principe pour le DEP. Ouais.
Ça, c'est dit. Le but aussi, c'est de pas être résigné. Moi, je le tourne plutôt de cette façon-là. Oui. C'est de jamais lâcher prise.
En tout cas, moi je ne lâcherai pas prise sur la question des données, parce que je pense qu'on n'aura jamais perdu là-dessus. Ouais. Il faudra toujours se battre.
Alors, on peut perdre une bataille, mais on n'a pas perdu. Je suis d'accord.
Pas perdu la guerre, en tout cas.
Alors, ok. Résilience, mais pas de résignation, si je vous entends bien.
Ouais.
Exactement.
Eh bien, ce sera les mots de la fin. Et je vous remercie, messieurs, pour cette discussion animée. Pour ceux qui voudraient réécouter les autres discussions qu'on a pu avoir avec Tony, c'est sur audiolab.ch que vous retrouvez tous les épisodes de Café Croissance. Vous avez envie d'en savoir plus sur la razzia sur nos data, vous avez compris. Et c'est en lien sur les notes d'émission que vous retrouverez le lien direct vers la publication de Heidi.news, coécrite par Grégoire Barbet. Nous, on va se retrouver dans quelques semaines pour le prochain épisode qui sera normalement accompagné d'un invité. Hein, j'attends encore sa confirmation. On vous en dira plus lors du prochain épisode. Prenez soin de vous. Bye bye.
Merci Marco. Hein. Merci Grégoire. Bye bye.
À bientôt.
Café Croissance. Un podcast Audiolab.